BFM Business, tout pour investir. Antoine Larigauderie.
Et on va commencer cette semaine par muscler vos investissements. TPI, tout pour investir, l'émission qui enrichit votre culture économique, qui vous aide à devenir de meilleurs investisseurs. Et comme toujours, nous sommes en direct à la radio, à la télé, sur le web et en podcast. Alors déjà, une bonne nouvelle, enfin une bonne et une mauvaise. On commence par la mauvaise, vous l'avez entendu, la France voit donc sa note de crédit abaissée d'un cran par Fitch. On passe à A+ seulement. Mauvaise nouvelle, largement anticipée par les marchés. La bonne, déjà, les perspectives sont stables désormais. Et puis, pas d'agitation du tout sur les marchés, c'est même le contraire. Les taux obligataires restent stables. Le CAC 40 est au plus haut depuis la fin août. Finalement, est-ce qu'on n'est pas dans une logique d'achat avec le sentiment que les mauvaises nouvelles sont désormais bien intégrées? On va déchiffrer tout ça avec Gustave Sanden de Colbert et Vincent Grabe de Trade Republic. Et au vu de la réaction ce matin, l'occasion d'affiner vos plans de trading. Si vous êtes investi sur le CAC 40, rendez-vous avec les arbitrages. Ce sera avec Michel Delobel d'MW Gestion ce matin. On en parlera aussi dans nos placements à suivre et comment les suivre, comment réagir posément à ce genre d'événement toujours très stressant hein, sur les marchés. On sera avec Julien Lebenzal d'Itoro qui sera avec nous en plateau tout à l'heure. Et puis toujours les bonnes recettes pour gérer au mieux votre patrimoine, vos actifs, votre capital. Et on va ouvrir une boîte à outils très spéciale avec Virginie Dramé-Longuet, notaire à Paris ce matin. Franchement, restez bien à l'écoute. On va parler gestion de votre patrimoine en tant que chef d'entreprise au sein du cercle familial. Problématique qui est au cœur de l'actualité avec la réflexion autour de la taxe Zucman. Et puis, on vous en a parlé en fin de semaine dernière de ce testament, alors incroyablement précis et avisé, de Giorgio Armani pour la transmission de son entreprise. Rendez-vous tout à l'heure. On va là aussi être dans le pratique et dans l'anticipation. Enfin, vous vous souvenez, la semaine dernière, on a pas mal parlé d'art chinois, d'objets précieux, d'actifs de valeur. Si vous voulez investir le marché de l'art asiatique, on va passer de la Chine au Vietnam aujourd'hui avec un focus particulier sur la peinture vietnamienne, un creuset de véritables petits chefs-d'œuvre. On en parle en fin d'émission avec les spécialistes de la maison Agut. Vous pouvez nous joindre par mail, hein, posez-nous toutes les questions que vous vous posez, direct@bfmbusiness.fr. Vous pouvez nous envoyer un SMS au 73216, vous tapez le mot-clé business suivi de votre message, et sinon vous me joignez sur Twitter, sur ma messagerie Twitter, X, hein, faut dire maintenant, et vous nous posez vos questions, on y répond en cours d'émission. Le reste de l'actualité économique du jour, donc vous l'avez entendu, hein, la France a perdu son double A, c'est l'agence Fitch qui a ouvert le bal vendredi d'un automne budgétaire compliqué. Fitch qui déplore l'instabilité politique, juge improbable un retour du déficit public sous 3% du PIB en 2029, comme l'ambitionnait François Bayrou. La France passe donc du double au simple A. A+, quand même, perspective stable, au moins de bonnes nouvelles. Réaction de Sébastien Lecornu, nouveau Premier ministre, nous payons l'instabilité. Le gouvernement proposera au Parlement de tenir une trajectoire saine pour les finances de la France. Sébastien Lecornu qui fait déjà quelques annonces. La suppression des 2 jours fériés passe à la trappe, ce qui est salué unanimement par les partenaires sociaux, qu'il continue à consulter ces prochaines heures à Matignon avant la mobilisation de jeudi 18. Puis après le 18, rendez-vous le 26, c'est la FNSEA cette fois qui appelle à une grande journée d'action des agriculteurs pour notamment se mobiliser contre le Mercosur et les taxes imposées par Donald Trump. La réunion de rentrée de la Fed, ce sera demain, avec probablement la première baisse des taux de l'année. C'est là-dessus que parient les investisseurs, à 25 ou 50 points de base. Hein, il reste quand même un peu de suspense. Et c'est ce que réclame sans cesse Donald Trump, justement sur le front commercial. Un nouveau round de négociations entre Américains et Chinois se tient à Madrid depuis hier. Les deux délégations menées par Scott Bessent d'un côté et le vice-premier ministre de l'autre tentent notamment de trouver une issue sur le dossier TikTok, sous le coup d'une interdiction aux États-Unis à partir de mercredi. Tout de suite, votre tableau de bord des marchés.
Tout pour investir, le tableau de bord.
Alors la phrase du jour, elle est d'Alain Pitous, qui vient souvent chroniquer hein, sur cette antenne, qui est aussi très actif sur X, hein, l'ancien Twitter, et qui dit « Encore 2 dégradations de la note de crédit de la France comme ça, et le CAC 40 peut légitimement regarder du côté des 10 000 points ». Mais c'est un petit peu ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on est dégradé par l'agence Fitch, et le marché, lui, encaisse très très bien, et monte même. Le CAC 40, qui avait libéré du potentiel en fin de semaine dernière, continue sur sa lancée et monte sur des plus hauts qu'on n'avait pas vus depuis la fin août, au-delà des 7900 points. 7903 à l'instant, mais on était même encore beaucoup plus haut tout à l'heure. On gagne en ce moment 1%. Et du côté des autres indices européens, ben on est un petit peu en dessous. Hein. L'Eurostock 50 ne gagne que 0,7%. On a du plus 0,36 pour le DAX à Francfort, plus 0,63 pour l'Espagne. Donc du coup, la France qui fait la course en tête, hein, malgré sa dégradation. Là, franchement, peut-être que le marché commence à intégrer les mauvaises nouvelles au cours, de nature à libérer un potentiel supplémentaire. Alors si on regarde la réaction sur les taux d'intérêt sur le marché obligataire, on assiste à une détente. On était à 3,50, un petit peu au-delà, en fin de semaine dernière. Et là, on descend à 3,49. On vole de concert maintenant avec l'Italien, 3,49 également. Et puis, ça s'agit aussi du côté des taux allemands, 2,69 pour le Bund. Alors que ça se tend un petit peu côté américain, on repasse au-dessus des 4% à 4,07%. Si on regarde dans le détail des actions qui bougent à Paris, alors sur le CAC 40, c'est Thalès qui fait la course en tête, plus 3,15%. Pardonnez-moi. Après quand même 12% de gagné sur la semaine écoulée, le titre poursuit à la hausse, a vraiment libéré du potentiel. On est à 258,40 €. À noter aussi Kering, alors que Luca De Meo entre en fonction officiellement aujourd'hui. Le titre gagne 2,8% à 248,05 €. Et puis L'Oréal, plus 2,5%, 390,75 €. À la baisse, la seule baisse notable du moment, c'est Edenred, qui est toujours empêtré dans des problèmes de considération fiscale et peut-être la perspective d'une surtaxe sur les titres restaurants. La presse s'en était fait l'écho en fin de semaine dernière. Et du coup, que ce soit Edenred ou Pluxee qui perd encore 1,8% à 14,72 €, on a l'impression d'un secteur qui est largement désinvesti ces dernières semaines. La forte baisse du jour, c'est Virbac, avec une baisse de 3% à 316,50 €. Plus forte baisse du SBF 120, après des prévisions qui ont vraiment laissé les marchés sur leur faim. En revanche, la spéculation du jour, elle traîne autour de Ruby, la société d'ingénierie, qui gagne 8% à 31,48 €, avec deux gros fonds d'investissement, CVC et Permira, qui visiblement chercheraient un rachat pour un retrait de la cote. C'est ce que révèle l'agence Bloomberg ce matin. Un petit coup d'œil sur les deux actifs de réserve de cette rentrée. L'once d'or fin, alors les choses se calment un petit peu, comme on reprend du risque sur le marché action. L'once d'or fin est en train de perdre quelques plumes. On est à 3 682 $ l'once et autour des 42 pour l'once d'argent. Tout de suite, on va déchiffrer l'actualité économique du jour.
Tout pour investir, le déchiffrage.
Le déchiffrage de ce lundi, il s'installe en studio en ce moment. Vincent Grard de Trade Republic, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Et Gustave Sonden de Colbert, merci d'être avec nous. Alors, bien évidemment, on va revenir sur la nouvelle du week-end. Enfin, elle commence à dater, hein, date de vendredi soir. Elle a été largement commentée, largement anticipée sur les marchés, comme on peut le voir. La France est dégradée. Donc, on passe de double A- à A+. Mais je le disais, ça, c'est la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, finalement, c'est qu'on reste dans une catégorie d'investissement plutôt intéressante encore, avec un bon rendement. La perspective est stable. Ça veut dire qu'au prochain rendez-vous, a priori, ça ne bouge pas. On va rester sur ces niveaux-là pendant un moment, en attendant le rendu de décision des autres agences. Mais Gustave Sonden, c'est mieux qu'anticiper sur les marchés. C'est-à-dire que ça a même libéré du potentiel sur les actions et ça contribue à la détente des taux.
Alors, je trouve votre lecture quand même bien optimiste, ça fait plaisir.
Wow, j'essaie de commencer la semaine avec des bonnes nouvelles.
Non, mais ça fait plaisir. Moi, j'avais une petite expression en tête, c'est le grand déclassement. Donc, c'est un petit peu moins optimiste.
On est dans le Club Med. Vous vous souvenez, on parlait du Club Med pour parler des dettes espagnoles, portugaises, italiennes. Ben, nous y voilà. En fait.
Il y avait l'expression Club Med, il y avait l'expression aussi Pigs, je ne sais pas si vous en souvenez.
Oui, bien sûr.
Parmi les Pigs, il y avait notamment l'Irlande, qui aujourd'hui, si on fait un petit calcul moyenné des trois grandes agences de notation, se trouve devant nous en note de crédit. Donc on est derrière les Pigs. Donc c'est quand même un grand déclassement.
On est au niveau de l'Estonie, vous nous dites.
Exactement, ouais, je trouve que ça met les choses en perspective. Ouais. Pourquoi ? Parce que l'Estonie, il y a 20 ans, c'est un PIB par habitant de 10 400 $. Voilà, juste pour qu'on se représente un peu les choses. Donc effectivement, c'est un pays qui a beaucoup progressé depuis, mais d'où ils viennent et où ils arrivent, et inversement, ça fait quand même un peu peur. Et le grand déclassement, pourquoi ? Parce qu'en fait, au-delà d'un changement de notation, c'est un changement de catégorie, c'est ce que je vous disais, puisque notamment nous-mêmes en Europe, on a mis des contraintes à nos principaux porteurs de dettes, nos investisseurs institutionnels, avec une loi qui s'appelle Solvabilité 2, et qui oblige les grands détenteurs à détenir un certain quota de dette à partir de quel seuil ? Double A.
Bien
donc
sûr.
Nous, on vient de descendre de double A à simple A. Ça ne veut pas dire que ces acteurs-là n'ont pas le droit d'en détenir, mais typiquement, les recommandations de Solvency 2 ou Solvabilité 2, c'est maximum 30% de simple A. Donc ça veut dire qu'il va y avoir probablement des acteurs forcés qui vont devoir effectivement faire des cessions. Et ça peut créer une pression, je dirais, plutôt déflationniste sur les prix de la dette française, et qui dit baisse des prix, bah, bah, hausse des taux.
Des taux qui montent. Hein,
exactement.
On avait beaucoup parlé aussi du Japon, qui techniquement a un quota aussi très précis de notes de cette catégorie-là.
Donc, désolé de casser un peu l'ambiance.
Hein. Ouais, non, Vincent Gras.
Moi, je suis plutôt de l'avis de Gustave, pour le coup, ça dépend du niveau d'ambition qu'on a envie d'avoir collectivement, et je le perçois aussi comme un déclassement, on passe en seconde division.
Ouais, mais globalement sur l'impact sur les marchés, vous en êtes à penser qu'on est peut-être un petit peu complaisant avec quand même ce qui reste un événement. On est tous d'accord, c'est quelque chose.
Sur le marché actions, oui. On a vu aussi que maintenant certaines entreprises françaises qui émettaient de la dette sont considérées comme moins risquées que l'État lui-même. Donc c'est très très symbolique parce qu'on a des entreprises d'un côté qui elles sont purement dépendantes de leur niveau de vente, de leur marge et ainsi de suite pour générer du bénéfice et être en capacité de rembourser la dette qu'ils émettent. Et en face de ça, on a un État qui, lui, a le plein droit de lever de l'impôt pour financer sa dette, qui est considéré comme plus risqué que des entreprises qui sont domiciliées dans son pays. Symboliquement, je trouve ça assez fort de mon côté.
Ouais, effectivement. Vincent Gras, on reste avec vous. Vous m'avez soumis quand même un sujet que je trouve très intéressant parce que on est en pleine évaluation des secteurs. On donne des noms un petit peu aux choses qui sont en train de créer des dynamiques de croissance à travers le monde. Vous vouliez nous parler de l'économie de l'attention.
Oui.
Qu'est-ce que c'est ? Parce que ce wording, on va forcément le retrouver à un moment ou à un autre quand on est investisseur.
C'est un terme un petit peu compliqué, en effet. Si on veut le simplifier, on va dire le coût du manque d'attention pour les entreprises ou pour notre pays. Y a le Trésor qui a sorti une étude très récemment sur combien coûte collectivement l'inattention qu'on peut avoir, notamment à cause des réseaux sociaux. Vous savez, le fait de scroller gentiment pendant la pause qui devient une pause de 5, 10, 15, 20 minutes. Et bien au final, collectivement, en termes de productivité au travail, le Trésor a réussi à chiffrer ça. On est à 15 milliards d'euros actuellement d'impact, ce qui représente à peu près 0,6% de notre PIB.
Voilà, c'est pas des chiffres d'un cabinet inconnu, c'est des chiffres du Trésor.
C'est les chiffres du Trésor, c'est une étude. Ça tient compte de deux facteurs. Donc déjà, la perte de productivité pure, du temps perdu, en fait, sur les réseaux sociaux, plutôt que d'effectuer son travail. Mm-hmm. Également, l'impact que ça peut avoir sur la santé mentale.
On en parle beaucoup.
Voilà, la surexposition aux réseaux sociaux, maintenant c'est largement prouvé, peut avoir des conséquences cognitives assez fortes. Donc ça, c'est 15 milliards d'euros actuellement. Et ils ont fait des projections jusqu'à 2060, et en 2060, ça pourrait être 75 milliards d'euros. Donc notamment à cause du fait que nos générations, nos jeunes d'aujourd'hui, sont en train d'avoir une certaine addiction aux réseaux sociaux, peuvent développer des biais cognitifs importants et devenir des travailleurs moins assidus dans les prochaines
moins
années.
Moins productifs.
Ouais. Exactement.
Gustave Sonden, c'est une problématique qui vous intéresse, ça ? Parce qu'on est en plein milieu. Hein. Il y a cette commission parlementaire alors, qui a rendu un avis, mais d'une dureté particulièrement notable autour de TikTok et du phénomène d'addiction, de pourrissement du cerveau à un certain stade. On voit que TikTok est aussi un des enjeux de la rencontre là qui a lieu en ce moment entre représentants chinois et représentants de l'administration américaine à Madrid. C'est un enjeu économique, ça, cette forme d'addiction et de baisse de productivité liée aux réseaux sociaux ?
C'est clair que c'est un enjeu économique, mais je trouve que la question que ça pose, c'est est-ce qu'on a besoin d'une économie qui travaille demain ? Puisque finalement, le changement technologique qui s'opère, c'est peut-être que finalement, votre valeur jusqu'à présent, c'était ce que vous produisiez. Peut-être que demain, votre valeur, c'est ce que vous allez consommer, et y compris en termes de contenu. Ou en tout cas, je pense que c'est un petit peu là. Et effectivement, c'est des débats qui ont déjà démarré depuis longtemps, en fait. Revenu universel, c'est quoi ? Toutes ces questions-là, c'est quoi ? C'est en fait le postulat que finalement, la société est capable de produire suffisamment de richesses pour tous et qu'on a de moins en moins besoin d'individus productifs. Et par conséquent, pour créer de la valeur, on va utiliser d'autres choses, votre consommation, votre attention. Et c'est ça qui va finalement produire de la richesse dans ce monde-là. Donc c'est une question un peu philosophique, mais moi c'est ça que ça m'évoque. C'est plutôt ça que ça m'évoque, puisque finalement ce déficit productif, on le voit pas dans les grands chiffres. C'est-à-dire que les économies continuent à croître,
Et peut-être même que l'intelligence artificielle ou que le recours.
Pour éviter le mot magique, mais effectivement.
Non, mais enfin, on en parle. Hein,
mais effectivement, c'est il y a eu d'abord une révolution industrielle plutôt d'école bleue, ouais. Et c'est peut-être la révolution industrielle d'école blanc qui est en train de démarrer.
Mais alors franchement, regardez cette étude du Trésor, c'est quand même assez impressionnant. Vincent Grard, on va parler d'un autre des événements de la semaine passée, mais qui en dit long et qui va durer, qui va être une des dynamiques à regarder de près, bah c'est que Elon Musk n'est plus l'homme le plus riche du monde, maintenant c'est Larry Ellison. Alors on en a beaucoup parlé, c'est vrai que Oracle, pour des générations assez jeunes, on va dire, en termes de présence dans l'univers économique, c'est... Tiens, Larry Ellison, ça fait 30, 40 ans qu'il y travaille à ça.
1977.
Voilà,
création d'entreprise, IPO en 1986, voilà. Qui n'a pas énormément fonctionné parce qu'il y a un certain Microsoft qui est arrivé quelques jours après.
Tout à fait.
Larry Ellison, 81 ans, qui vient de prendre la première place, comme quoi il n'est jamais trop tard. Ça laisse de l'espoir à beaucoup de monde. Superbe story. Après, ça rentre dans le cadre de la hype, comme on pourrait dire, qui est actuellement autour de l'intelligence artificielle. Ce qui m'impressionne, moi, le plus, c'est les chiffres sur le carnet de commandes. Oui. On parle d'un carnet de commandes pour l'année prochaine qui est égal à 7 fois le chiffre d'affaires actuel.
Oui, c'est-à-dire qu'avant, on disait, le cloud... Parce qu'on parle d'IA, on parle surtout de capacité de stockage et de capacité de traitement de l'information. Il y avait AVS, il y avait Microsoft... Bon, et là, d'un coup, boum ! Oui, Oracle.
La force d'Oracle, c'est qu'en fait, ils externalisent le côté immobilier, donc les endroits où sont stockés les serveurs, et ils s'occupent uniquement de ce qu'ils savent bien faire, la technologie et l'architecture, exactement. Donc c'est un pari qui finalement est devenu payant.
Gustave Sandén, c'est vrai que moi j'ai commencé à faire la bourse dans les années 2000, on parlait déjà de Larry Ellison qui était une des plus grandes fortunes du monde, qui se faisait virer de son propre yacht tellement il s'habille normal et le videur lui a fait non, tu rentres pas. Il y a tout un mythe aussi de cette vieille high-tech qui revient au premier plan, comme Microsoft, comme Oracle. Est-ce que vous pensez que ça peut redonner vie aussi à, je ne sais pas, un Intel? Alors, on voit que le destin d'Intel est un petit peu compliqué, parce qu'il y a Donald Trump qui a pris 10% du capital. Est-ce que vous pensez que ça peut faire revenir au premier plan des anciennes gloires de la high-tech qui vont se retrouver une seconde jeunesse, justement dans l'IA, le cloud et ses dynamiques de développement?
Oui, j'aime bien votre question, je trouve que ça dit quelque chose, comme le commentaire de Vincent. Le premier client d'Oracle, c'était la CIA. et en fait, c'est moins connu, Oracle. Pourquoi ? Parce que c'est justement plutôt de l'infrastructure. C'est ce sur quoi on bâtit et ce n'est pas des consumers tech comme finalement Meta, Google, etc. qu'on a tous dans notre quotidien. Et donc ces sociétés finalement d'infrastructure, de technologie lourde retrouvent un énorme espoir aujourd'hui parce qu'il y a un changement justement de paradigme du point de vue de l'usage avec cette intelligence artificielle, on y revient. Et effectivement là, ce qui porte clairement la valeur, c'est que le choix justement du leader de ce nouvel usage se porte sur Oracle. Et donc, eux, en termes d'infrastructure, ça leur donne un potentiel de croissance assez illimité. Et effectivement, ça va être très intéressant de voir ce que ça donne pour eux, mais pour d'autres entreprises qui sont peut-être un petit peu plus sous les radars depuis quelques temps.
Alors, dernier aspect qu'on va traiter aujourd'hui, c'est vachement intéressant parce qu'on voit les entreprises qui débordent de dynamique de développement, qui arrivent à s'endetter très convenablement sur les marchés, et peut-être mieux que les États souverains. Est-ce que c'est un phénomène qui va vraiment être crucial pour nos investissements dans les prochaines années? Par exemple, l'opportunité de plus investir dans de la dette d'EDF, de Veolia, d'Orange, que dans la dette des États souverains.
Bon, pour l'instant, c'est un peu un épiphénomène quand même. On parle de 10 valeurs en France qui sont effectivement mieux traitées que la dette française. Ça dit quand même des choses, puisque finalement, les dettes des États, au-delà de la qualité du crédit, sont aussi des outils très liquides. Mmh. Et donc, il devrait y avoir une prime d'illiquidité en leur faveur par rapport aux entreprises. Il se trouve qu'aujourd'hui, on a 10 sociétés donc en France, BNP, Airbus, LVMH, qui traitent du coup dans des meilleures conditions que l'État français depuis cette dégradation. Moi, je pense que ce que ça dit plusieurs choses. Ça dit qu'il se passe un tournant sur les taux, ça c'est clair, parce qu'on a aujourd'hui quand même un changement de régime qui devrait s'opérer cette semaine aux États-Unis. On voit qu'il y a eu un petit rallye quand même qui s'est produit sur les taux longs déjà depuis un mois, qui anticipe justement ce changement de régime. Et les investisseurs sont en train en fait d'aller chercher à embarquer justement ces taux qui étaient quand même plutôt attractifs ces derniers mois, hein, par rapport à ce qu'on a connu dans la décennie 2010-2020 pour simplifier. Donc nous, on fait très attention à ça. On pense que ces taux, et notamment investment grade, parfois plus de 4%, étaient vraiment cruciaux à aller embarquer. Et donc je pense qu'il y a un changement effectivement qui s'opère dans les portefeuilles. Au-delà effectivement de ces épiphénomènes qui disent quelque chose sur la qualité du crédit, sur la capacité à aller embarquer ces taux. Parce qu'une fois que c'est passé, c'est passé.
Oui, oui.
Et là, vous vous placez à 2 ou à 1, et là, il faut attendre 15 ans pour que le cycle revienne.
C'est ça. C'est exactement ça. Le changement de régime, hein, bien sûr, c'est cette baisse des taux très anticipée de la Fed qui doit être annoncée mercredi soir à l'issue de la réunion du comité de politique monétaire. Vincent Grard aussi, vous avez un sentiment autour de ces entreprises finalement, qui sont moins risqués à investir que les États souverains?
Moi, je pense surtout que le problème côté États souverains, et notamment en France, il est majoritairement dû sur l'instabilité politique. Parce que le niveau de dette, il a sensiblement pas beaucoup évolué ces dernières semaines ou ces derniers mois. Donc, je suis assez persuadé que si on revient à un niveau de stabilité conséquent, les choses vont rebasculer sur ce qu'on appelle quelque chose de plus normal.
Donc, on sait que sur les marchés, ça peut arriver très, très vite. Merci infiniment, messieurs.
Merci,
Gustave Sanden de Colbert et Vincent Grard de Trade Republic. Merci d'avoir été avec nous pour déchiffrer cette actualité économique, encore une fois, foisonnante. Tout de suite, les arbitrages.
Tout pour investir. Arbitrage.
Les arbitrages avec Michel Delobel d'MW Gestion. Bonjour, merci d'être avec nous, Michel. Alors, bah oui, on est dégradé par Fitch et le CAC 40 en profite pour confirmer totalement cette espèce de breakout de la fin de la semaine dernière. On retrouve les niveaux de fin août. Est-ce que la configuration technique du CAC 40 commence à vraiment changer l'attaque maintenant des 7900?
Alors, c'est un changement de court terme. On reviendra sur la notation de Fitch tout à l'heure, mais c'est vraiment un changement de court terme. Si on prend un petit peu de recul, on est quand même toujours dans un même range 7500-8000 globalement depuis le mois de mai. Alors, c'est sûr que là, on était bloqué par la zone des 7825-7830 qui était consécutive au gap baissier qu'on avait eu à la fin du mois d'août. On l'avait testé deux jours après le 28, on l'avait retesté et comblé en fin de semaine dernière. Là, on vient de franchir ce niveau-là. On avait un premier objectif à 7925-7930 qu'on est allé chercher tout de suite ce matin. Depuis, on hésite un petit peu en dessous parce que ben, on se rapproche des 8000 points globalement, qui est le haut de la zone dans laquelle on évolue depuis maintenant 4-5 mois. Donc voilà, il ne faut pas s'emballer non plus. La note de Fitch, en tout cas, c'est clairement... On dit que c'est anticipé, mais j'ai vu ce matin qu'ils ont dégradé également les paramètres et le titre progresse de 7%. Donc, je ne sais pas si on se moque un petit peu de cette agence de notation qui est un petit peu moins regardée que les deux autres, mais voilà, je trouvais que c'était quand même assez amusant de voir que Fitch dégrade deux, la France et Eramet, et les deux progressent.
Alors, on le rappelle, hein, Eramet, oui, effectivement, qui gagne 6,7%, 51,20€, mais le titre avait vraiment souffert à la fin de la semaine dernière du désengagement du fonds souverain norvégien, qui avait 0,44% du capital, qui a tout liquidé pour des raisons éthiques, estimant que Eramet a des pratiques dangereuses vis-à-vis de l'environnement et vis-à-vis de certaines populations autochtones concernant son activité d'extraction minière. Il y a un autre actif que vous regardez en particulier sur les marchés ce matin, quelque chose qui capte un petit peu votre attention?
Alors ouais, nous on regarde. Alors c'est pas juste ce matin, ça fait depuis la fin du mois d'août qu'on s'intéresse un petit peu à Alcon, alors qui est pas forcément une entreprise très connue, mais qui est pourtant parmi les leaders mondiaux. Ils font des lentilles de contact notamment et tout ce qui est équipement chirurgicaux, ophtalmique.
Voilà, j'allais dire, c'est une entreprise qui est quand même connue de ceux qui portent des lentilles, qui utilisent du produit pour lentilles et qui prennent soin de leurs yeux. Mais Alcon, ouais, on les voit pas mal sur les emballages. Mais c'est vrai que c'est un groupe pharmaceutique dont on parle relativement peu par rapport aux grands cadors de la santé. Mais c'est un groupe très spécialisé avec vraiment des dynamiques de développement intéressantes.
Alors, des dynamiques effectivement intéressantes, parce qu'ils misent quand même sur le... Enfin, qui misent, mais il y a le vieillissement de la population, il y a quand même de plus en plus de jeunes maintenant qui sont devant les écrans, et on ne sait pas trop comment ça va évoluer dans les prochaines années pour eux, mais voilà, on voit notamment aussi une explosion de la myopie en Asie. Donc, il y a un fond, en tout cas une tendance de fond qui est favorable, et paradoxalement, à court terme, depuis quelques mois, le titre va quand même moins bien, il y a eu une petite déception sur le chiffre d'affaires du P2. Bon, rien de dramatique, mais ça a entraîné quand même une baisse du titre qui est revenue sur ses niveaux de fin 2023, avec pourtant, si on compare les chiffres d'aujourd'hui, enfin les prévisions 2025, compte tenu de la déception d'il y a quelques jours, par rapport aux chiffres de 2023, ben on a un chiffre d'affaires qui devrait être hausse de 10% par rapport à 2023, un résultat net qui devrait être en hausse de plus de 18% par rapport à ce qu'il était en 2023, l'EBITDA plus 15%, et la dette, elle, recule de 20%. Donc, je ne comprends pas forcément bien aujourd'hui la désaffection du marché par rapport à ce titre-là, mais c'est un petit peu plus général, c'est tout le secteur de la santé qui est un petit peu mis sous l'été noir en ce moment. Donc voilà, on se dit que c'est peut-être un bon moment de revenir sur des thématiques, qui sont des thématiques en plus relativement défensives. On parlait tout à l'heure de la hausse du CAC aujourd'hui. Il faut quand même regarder que la première hausse aujourd'hui, c'est Crest. Et voilà, je ne sais pas si c'est un si bon signe que ça sur du moyen long terme, quand le secteur de la défense se retrouve en tête du marché. Voilà, ça dénote quand même de quelques inquiétudes à droite ou à gauche. Donc, d'aller se réfugier, entre guillemets, sur le secteur de la santé qui a souffert ces derniers mois, c'est peut-être pas une mauvaise idée.
Effectivement, Alcon à retenir pour ces dynamiques effectivement de long terme. Thalès, on en parle, plus 3,3%, c'est effectivement la plus forte hausse du CAC à 258,80 €. Le titre a déjà gagné 12% sur la semaine écoulée. C'est un parcours boursier absolument étonnant. Merci beaucoup, Michel Delobel, d'MW Gestion. Vos questions, vos réponses, vous n'oubliez pas de nous les poser. Vous pouvez nous joindre par mail, direct à bfmbusiness.fr. Le SMS aussi, 732-16, vous tapez le mot-clé business suivi de votre question. Et sinon, vous me la posez sur Twitter, sur X. Et puis, j'essaie d'y répondre en cours d'émission. Restez avec nous, deuxième demi-heure de TPI. Dans un instant, on va ouvrir la boîte à outils patrimoniale, très intéressante pour mieux gérer votre patrimoine quand vous êtes chef d'entreprise. On sera avec Virginie Darmé-Longuet, qui est notaire à Paris. Finance comportementale aussi avec Julien Lebenzal. On reste quand même dans une configuration de marché assez particulière et on va réclamer un petit peu de ses lumières. Enfin, on fera un gros point à nouveau sur l'art asiatique, direction le Vietnam aujourd'hui avec les trésors de la peinture vietnamienne. Vous allez voir, c'est archi intéressant avec les experts de la maison Agut. À tout de suite dans TPI.
Tout pour investir, l'actu du patrimoine.
Quelle va être intéressante cette boîte à outils juridique aujourd'hui. Nous sommes avec Maître Virginie Darmé-Longuet, notaire à Paris. Bonjour.
Bonjour.
Alors, on va parler... Quand on regarde les thématiques qu'on va aborder là dans les prochaines minutes, on est vraiment au cœur de l'actualité. Il y a toutes les réflexions autour de la taxe Zucman. Il y a... Alors c'est vrai, c'est une actualité un peu particulière, mais le testament de Giorgio Armani qu'on a ouvert à sa mort, où il est extrêmement précis sur comment le patrimoine entrepreneurial doit être réparti, doit fructifier de telle et telle manière, avec des possibilités de fusion, acquisition, etc. Enfin, incroyable. L'homme était très avisé. Mais justement, on va essayer d'être aussi avisé que lui et préparer les choses. Parce que quand on est chef d'entreprise, quand on est entrepreneur, il faut tout prévoir et il faut considérer son patrimoine entrepreneurial comme un actif vraiment à gérer avec le maximum d'anticipation. Donc, on est avec vous et c'est très bien. On va faire vraiment de la technique, du juridique et essayer de voir, par exemple, la simple considération du régime patrimonial quand on est entrepreneur, c'est quelque chose qu'il faut préparer en amont de manière à être le plus prudent possible face aux incertitudes du moment, maître.
Alors, tout à fait. Le chef d'entreprise doit être accompagné et notamment par des professionnels du droit et notamment le notaire. On dispose d'un ensemble d'outils juridiques dans notre boîte à outils et il convient réellement d'anticiper. Tout d'abord, pour structurer le patrimoine et envisager de le transmettre, On peut déjà réfléchir de toute façon à la donation, par exemple. Mmh. Pour le chef d'entreprise, on a un outil que tous les professionnels du droit connaissent, c'est le pacte Dutreil. Le pacte Dutreil, par exemple, c'est un dispositif fiscal qui permet d'encourager la transmission et justement donc d'anticiper. L'idée, c'est qu'une entreprise, il faut faciliter sa transmission pour qu'elle puisse perdurer par la suite. Donc, il faut anticiper sur ce mécanisme. On peut également en fait envisager avec le chef d'entreprise d'établir des dispositions testamentaires. L'objectif étant effectivement de déterminer quelles sont ses dernières volontés pour structurer son entreprise.
Alors là, c'est marrant, ça nous ramène aussi à une actualité qui est un petit peu moins récente, mais qui était très parlante aussi, c'est la séparation de Jeff Bezos et de sa conjointe. Là, il était question de se partager une des plus grosses entreprises du monde. Elle a décidé de faire de la philanthropie avec et lui de continuer à développer l'entreprise. Mais le changement de régime matrimonial dans un couple où il y a un entrepreneur, ou peut-être même deux, c'est quelque chose, là aussi, où il faut anticiper très longtemps à l'avance. Je dis ça parce qu'il y a énormément de gens qui nous écoutent, des fondateurs de start-up, des gens qui ont du capital investissement en propre. Et c'est quelque chose auquel il faut penser extrêmement tôt parce que les dynamiques d'entreprise vont de plus en plus vite.
Alors, tout à fait. Généralement, nos chefs d'entreprise sont mariés sous un régime de séparation de biens. Mmh. On va dire la majorité. Généralement, ces chefs d'entreprise, quand ils sont jeunes, ils envisagent quand même de protéger le conjoint.
Bien sûr.
Alors souvent, on intervient par le biais du contrat de mariage. On va procéder généralement à un changement de régime matrimonial. Toutefois, on est partagé parce qu'il faut à la fois protéger l'entreprise, mais également essayer de protéger le conjoint. Avant de parler de divorce, on va généralement, quand on se marie, on se dit que la séparation aura lieu certainement par un décès. Donc, le chef d'entreprise, il a envie de protéger son conjoint et donc nous, on doit trouver les outils appropriés. Par le biais du changement de régime matrimonial, on va parfois amener une certaine bulle de communauté. Les chefs d'entreprise, quoi qu'il arrive, restent généralement séparés de biens parce qu'il faut qu'ils maîtrisent leur outil professionnel. Donc, en créant une bulle de communauté, par exemple, ce qu'on appelle, nous, la société d'Aquet, on va venir, par exemple, apporter un bien quand même important, qui est généralement le logement de la famille, et on va prévoir avec eux quelles seront les modalités en cas de décès. Donc, on peut prévoir ce qu'on appelle, nous, des avantages matrimoniaux, comme une clause de préciput, pour que le conjoint survivant en soit le seul propriétaire au moment du décès. Mais notre difficulté, c'est qu'il faut également envisager la séparation, parce qu'on sait aujourd'hui qu'un mariage sur trois se termine par un divorce. Et donc, il faut anticiper avec eux, au moment où on modifie leur contrat de mariage, quelles seront les conséquences en cas, effectivement, de séparation, puisque le chef d'entreprise doit quand même rester maître de son outil. Et ça, il peut évidemment le perdre dans l'hypothèse d'un divorce en devant indemniser son conjoint.
Absolument. Alors, l'autre problème, et ça nous ramène à l'actualité de Giorgio Armani, c'est de gérer aussi la transmission aux enfants en cas de décès, mais aussi en cas de succession. Et là, quels sont les types d'outils qu'on peut mettre à disposition des enfants, de la progéniture, des chefs d'entreprise, de manière à ce que la transmission se passe bien et soit le plus protégée possible des incertitudes?
Alors, comme je vous disais tout à l'heure, on peut éventuellement anticiper par le biais de donations avec cette notion de pacte Dutreil.
D'accord. Et on peut peut-être rappeler concrètement
quoi ça consiste. Qu'est-ce qu'un pacte Dutreil? Alors, en réalité, c'est un outil fiscal qui nous permet de transmettre l'entreprise et les parts ou titres de société bénéficieront d'une diminution, enfin, seront exonérés de droits de succession ou de droits de donation à concurrence de 75% de la valeur des biens.
D'accord.
Mais on a besoin de ce dispositif pour pouvoir transmettre les entreprises. Parce que sans ce dispositif, évidemment, ça peut être la mort de l'entreprise. À côté de ça, on essaie également d'anticiper, par exemple, avec le mandat, le mandat à effet posthume.
Oui.
Ce mandat, en réalité, c'est la possibilité pour un chef d'entreprise de désigner de son vivant un ou plusieurs mandataires qui seront chargés de gérer finalement son patrimoine au moment de son décès. Donc, c'est un outil, il faut nécessairement, il faut aller voir son notaire, puisque c'est un acte notarié.
Oui.
L'idée, c'est justement, il a été conçu en 2006 par le législateur, parce que permettre, notamment quand on a des enfants mineurs ou un outil comme l'outil professionnel, c'est quand même une entreprise à gérer, ça demande en fait des compétences particulières. Les enfants ne sont peut-être pas aptes à le gérer maîtriser. Et donc à le maîtriser. Et donc, effectivement, on fait appel à ce moment-là à un mandataire que l'on a choisi en fonction de ses compétences.
Il ne faut pas qu'il y ait vacance du pouvoir.
C'est ça. Et l'idée, c'est bien d'anticiper, puisque ce mandat doit être signé, si vous voulez, chez un notaire, en amont, évidemment, bien avant le décès.
Voilà. Donc, en gros, le conseil que vous donnez, c'est même dans le cas, et surtout dans le cas des jeunes entrepreneurs qui montent leur boîte, c'est...
Allez voir votre notaire.
Notaire et protéger
voilà. Il faut protéger l'entreprise, il faut la structurer, il faut envisager de la transmettre et se protéger soi-même en tant que chef d'entreprise, mais aussi protéger sa famille, c'est-à-dire son conjoint et ses enfants.
Bah écoutez, merci infiniment, Maître Virginie Darmé-Longuet, notaire à Paris, pour tous ces conseils précieux hein, pour bien administrer son patrimoine et surtout quand on est chef d'une entreprise, quand on est entrepreneur. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Tout de suite, on passe à la finance comportementale, bien sûr.
Tout pour investir, le placement à suivre.
Et on retrouve Julien Lebenzal d'Itoro qui nous fait l'amitié d'être en plateau aujourd'hui. Bonjour Julien.
Bonjour Antoine.
Merci d'être là. Alors bien évidemment, on va revenir sur le gros titre qui monopolise l'attention depuis vendredi soir. C'est la dégradation de la note de crédit de la France par Fitch. Alors c'est jamais on minimise les choses. C'est vrai que les marchés quand même le prennent relativement bien. C'était très très anticipé. Mais il ne faut pas oublier que la baisse d'une note de crédit souveraine, aussi importante que celle d'un pays comme la France, c'est un événement important sur les marchés. Vous, de votre point de vue, qu'est-ce qu'il ne faut pas perdre de vue? Parce que là, on voit que les marchés s'emballent un petit peu d'un air de dire c'est bon, c'est réglé. Oui, les impacts, ils seront d'un peu plus long terme. Comment on se prépare à ça?
Je pense que les épargnants s'y préparent, en fait. Il y a une statistique qui est souvent décrite. Récemment, on en parle pas mal. C'est le taux d'épargne des Français. 17 à 18 %, oui. Alors que la moyenne européenne est 13 %. Et en fait, cette épargne, elle pourrait refléter ce climat anxiogène autour des déficits élevés, du niveau de la dette, la dette qui progresse et cette dégradation qui vient... Bon, a posteriori, c'est pour ça que les marchés ne réagissent pas, a posteriori cette notation, que la dette française a beaucoup progressé. Alors, bon, on peut rester dans la partie anxiogène. Je voudrais peut-être dire en introduction, être un peu plus positif. Il y a les 17-18%, si on ajoute le crédit immobilier et les remboursements pour notamment les résidences principales, on fait un taux qui doit faire 20-25%, on fait à peu près 40%. Ça veut dire qu'il y a 40% des revenus qui partent dans le futur, qui partent pour le futur.
Oui,
et
c'est
en fait,
ça.
C'est bien.
Oui.
Non, mais on peut le regarder positivement.
Oui, oui, oui.
Ça veut dire que les Français, comme d'autres pays, mais enfin les Français, puisqu'on parle d'eux là ici avec le taux de 17-18, les Français mettent 40% de leurs revenus pour des choses qui vont advenir. Ça veut dire qu'ils ont une vision de ce qu'est un patrimoine, de ce qu'est le futur, des risques, de la manière de se prémunir des aléas de la vie. Et ça, c'est une bonne chose. Je pense qu'il faut aussi le dire dans ce sens-là.
Oui, voilà. Par principe, c'est avisé de se couvrir et de prévoir à ce niveau-là, c'est peut-être les manières d'investir qui sont investissement dans le futur, on va dire.
Justement, ce taux de 17-18%, pourquoi il est plus élevé? Alors, l'économiste David Ricardo avait une intuition, c'est au 19e siècle, en disant, en fait, si vous faites un cadeau fiscal à vos citoyens, ils vont comprendre qu'on va vous le reprendre plus tard. Ils le comprennent. Ils savent quand on vous donne quelque chose, rien n'est gratuit. Schématise sur l'expression de l'époque. On vous donne 1 000 euros de baisse d'impôt. Que font les gens, selon lui? C'était son intuition. Ils économisent 1 000 euros tout de suite parce qu'ils savent qu'on va leur redemander ça plus tard. C'est ce sorte de bon sens, d'attitude rationnelle. Alors, est-ce que cette intuition est vraie? C'est connu sous l'acronyme en économie d'équivalence ricardienne, mais c'était repris par un économiste américain dans les années 70 qui lui a fait des études. Et il a vu aux États-Unis que ça fonctionnait pas mal. Et on a fait d'autres études après dans l'OCDE, ça fonctionne correctement. Et le pays où ça fonctionne parfaitement, c'est le Japon. Les Japonais ont toujours eu l'attitude rationnelle d'épargner face à une difficulté de l'État à venir. Donc, conclusion de tout ça, c'est quand même très probable que le taux de 17-18% soit à relier avec la compréhension que les ménages ont du fait que de financer, par exemple, des retraites dont le régime n'est plus équilibré ou ne le sera plus, part du déficit public, c'est quelque chose qu'à un moment, on leur demandera d'une manière ou d'une autre, soit en baissant les retraites, en augmentant les impôts. Voilà. C'est une attitude, encore une fois, qui est rationnelle. D'ailleurs, c'est une des hypothèses de validation de cette théorie. Alors maintenant, pour nous, pour ce qui concerne les marchés financiers, alors nous, on le voit très bien, l'éducation, on dit toujours l'éducation financière des Français n'est pas assez bonne, c'est pour ça qu'ils n'investissent pas. C'est vrai et faux. En tout cas, les professionnels bougent beaucoup depuis quelques années pour améliorer l'éducation financière. Donc, on s'en rend compte nous-mêmes, on a une académie Itoro, mais d'autres le font et très bien, et vraiment des choses remarquables. On se rend compte que nos clients, enfin les épargnants, comprennent ce que c'est qu'un investissement de long terme. Ce qui veut dire qu'ils ne se ruent pas systématiquement sur le fonds en euros. Ils le comprennent.
Oui.
Mais dans les 17-18% dont je parle, y a cette idée que, comme on a un déficit et une hausse d'impôts devant nous, sur quel support on va placer cette épargne qui correspond à cette anticipation ? Eh bien, sur une épargne de type fonds en euros. Donc, on n'investit pas. Et c'est ce qui explique beaucoup le côté extrêmement stable. Le côté extrêmement stable de l'épargne qu'on qualifierait de non productive. C'est qu'il y a une telle anticipation des conséquences de la situation qu'en fait, on ne va pas tellement sur les supports d'investissement de long terme. Et encore une fois, je le dis pour l'expliquer, mais je dis qu'en même temps, les épargnants comprennent de mieux en mieux la problématique de l'allocation long terme. On le voit quand ils établissent leur plan d'épargne retraite, ils ne cherchent pas du tout à aller sur un fonds en euros. Ils comprennent qu'il faut être disposé avec des obligations de long terme, avec des actions, avec éventuellement d'autres choses, comme un peu de private equity, des choses comme ça. Mais ils comprennent que cet argent qui est là pour fructifier pendant 20, 25, 30 ans, n'entre pas dans la considération des trimestres ou années à venir, qui est celle de l'anxiété de la dette publique.
Ce qui est très intéressant à travers ce paradoxe, parce qu'on le répète aussi, le principal argument pour investir dans tel ou tel support de la part des investisseurs, c'est sa liquidité, sa disponibilité. On voit que non seulement on est prêt à mettre de côté, mais en plus à se dire « bon, ça ne va pas me rapporter grand-chose, mais bon, c'est comme ça ». Mais au moins, l'argent est de côté et est là pour financer d'éventuels revers d'environnement.
Mais là encore, c'est rationnel, parce que comme vous ne connaissez pas la date, le moment auquel on va vous demander un peu plus d'impôts, ou on va vous donner un peu moins de quelque chose, je citais les retraites, vous ne la connaissez pas cette date, vous n'avez donc doit progresser pendant 20 ans. C'est bien ce qu'il a en tête, et c'est là qu'il accepte le risque. En revanche, l'épargne dite de précaution, mais je l'élargis à l'épargne dite d'anxiété par rapport à la situation, cette épargne-là, comme on n'a pas d'horizon de temps, attitude rationnelle, je dois être sur un support plutôt liquide, même s'il me rapporte peu. Et c'est comme ça qu'on obtient une surépargne, et notamment sur des produits qui ne sont pas de vrais produits d'investissement de long terme.
Alors même qu'on voit que les marchés actions, il faut vraiment une bombe nucléaire pour les arrêter. C'est vrai qu'il y a une certaine hypothèque géopolitique qui rend cette image un peu bizarre, mais il y a du rendement à prendre sur le marché actions, aussi bien du point de vue de la performance que du coupon. Et on sait qu'on gagne, je ne veux pas dire à tous les coups, ce serait bête de dire ça, parce qu'il y a toujours de la volatilité à court terme, mais on voit que fondamentalement, tout pousse l'épargnant vers les actions, qui est le support le plus dynamique. C'est peut-être celui qui lui fait le moins envie, finalement.
Il se retrouve dans l'équation que je décris. Il a cette incertitude sur l'horizon fiscal, en quelque sorte, qui l'amène, l'incite à ne pas prendre un risque. Parce que si vous devez utiliser une partie de votre capital dans 2 ans, dans 3 ans, parce qu'il se passe quelque chose au niveau de la fiscalité, vous savez que vous ne pouvez pas être sur les actions. C'est là où l'éducation financière progresse. Des gens comme nous, et encore une fois, beaucoup d'autres acteurs du marché font un travail pour expliquer que si vous achetez un portefeuille d'actions aujourd'hui, eh bien, vous pouvez perdre dans un an 25%. Vous pouvez gagner dans un an 25%. Mais ça, on ne sait pas. Ce qu'on sait, c'est que si vous tenez en moyenne une durée supérieure à 5 ans, et idéalement 10 à 15 ans, eh bien, assez systématiquement, vous êtes en situation de gain. Donc, votre épargne a progressé, et en général, plus que l'inflation. Ça, c'est des choses qui sont admises. Je reviens toujours au point de départ. Pourquoi elle est faite, cette épargne ? Pour un ensemble de raisons, et c'est pour ça qu'on trouve un ensemble de supports qui sont présents, mais beaucoup de supports, beaucoup et trop de supports liquides du fait de la visibilité que les gens ont rationnellement sur la fiscalité.
Et donc, plus on est liquide, hein, moins il y a de moyens de rendement, hein, nécessairement.
Exactement.
Puisque, évidemment, c'est le risque qui va déterminer tout ça. Donc, ce que vous conseillez, en fait, c'est quand même d'examiner ses besoins, d'examiner ses priorités, d'avoir toujours à cœur de, on va dire, de diversifier au mieux les supports d'investissement, mais toujours avec cette échelle de temps qui va déterminer de quoi j'ai besoin.
Exactement. Il faut pas considérer. Alors, on a là où vraiment les épargnants en général ont fait beaucoup de progrès grâce à l'industrie, c'est que l'inquiétude de l'épargne, c'est-à-dire je n'y comprends rien, je ne sais pas ce qui se passe, cette inquiétude commence hein, à s'estomper un peu. Toute l'activité en ligne d'explication de comment ça fonctionne aide beaucoup. Et donc, ce qu'il faut, c'est rentrer dans un travail d'examen, d'analyse de sa situation, de ses besoins actuels, de ses besoins futurs, de la manière dont organiser tout ça, et ensuite construire justement son patrimoine et la progression de son patrimoine en alimentant chaque mois telle ou telle poche d'investissement. Et je le dis parce que je le constate, quand on parle plan épargne retraite avec des épargnants, ils savent que c'est pour la retraite. Dans leur esprit, c'est une case qui est bien séparée, bien isolée du reste. Et ils savent que là, ils vont prendre des risques. Donc, il ne faut pas être soit tout en risque en disant « je n'ai peur de rien », il ne faut pas être tout en prudence en disant « je ne sais pas ce qui va se passer ». Il faut examiner les besoins de chacun, la situation, et adapter la construction patrimoniale en fonction de ce que, encore une fois, beaucoup d'acteurs de l'industrie permettent aujourd'hui.
Les conseils, les bons conseils de Julien Nebenzahl, dit Toro, sur la finance comportementale, hein, qui est toujours riche d'enseignements. Merci beaucoup, Julien, à une prochaine fois. Restez avec nous. Dans quelques instants, on va parler du marché de l'art asiatique. On va rester en Asie, hein, comme la semaine dernière, avec les objets chinois précieux. Là, on va se consacrer à la peinture vietnamienne, véritable creuset de petits chefs-d'œuvre. À tout de suite.
Tout pour investir, le coffre-fort.
Allez, on termine cette émission par au coffre-fort. Au coffre-fort, il y a des œuvres d'art. Vous vous souvenez, la semaine dernière, on vous avait amené au milieu d'objets précieux chinois, des objets d'art. Il y avait des pots à crayons, il y avait des vases, bah, évidemment. Il y avait des robes en soie, c'était absolument extraordinaire. On va rester avec les spécialistes d'Agut, mais cette fois, on part au Vietnam, avec les trésors de la peinture vietnamienne. Nous sommes avec Charlotte Agut Régnier, qui est experte en ce qui concerne les peintres d'Asie. Bonjour.
Bonjour Antoine.
Merci d'être avec nous. Merci. Alors, c'est vrai que le cliché sur l'art asiatique, on va tout de suite regarder ce qui se passe du côté de la Chine, du côté du Japon, et on ne connaît pas du tout cette tradition de la peinture vietnamienne, bon, qui en gros a connu son âge d'or aussi par, on va dire, le colonialisme français qui a vraiment rendu hommage et enseigné aux personnes sur place l'art de peindre et avec les bonnes techniques.
Exactement. En 1925, Victor Tardieu, qui est un artiste français qui a fait les Beaux-Arts à Lyon et les Beaux-Arts à Paris, est au Vietnam. Et ça fait quelques années qu'il est au Vietnam et il crée une école des Beaux-Arts à Hanoï sur le modèle de l'école des Beaux-Arts de Paris. Et il va enseigner à une petite élite d'élèves vietnamiens à peindre et à créer de la même manière que ce qui est enseigné à Paris. Ça va être une éducation d'excellence, d'exigence, ils vont travailler dur. Et on a fait une petite étude il n'y a pas très longtemps et on s'est rendu compte qu'on a regardé l'évolution de l'art moderne vietnamien, justement, depuis 25 ans, parce qu'effectivement, c'est quelque chose dont personne ne parlait récemment. Et entre 2000 et 2025, le total adjugé pour un artiste vietnamien est répertorié par cette base de données qui s'appelle ArtPrice. ArtPrice, c'est un peu comme l'Argus pour les ventes aux enchères, mais c'est pour les œuvres d'art. C'est une base de données mondiale. En 2000, 1 million d'euros. En 2025, 48 millions. 2024, 48 millions et demi.
Oui.
Donc, c'est une énorme évolution.
C'est clair.
Le nombre d'œuvres, par contre, présentées, en 2000, environ 180. Je n'ai plus les chiffres exacts en tête. Et en 2024, 1800 ou quelque chose comme ça, donc juste 10 fois plus. Par contre, les chiffres se sont complètement envolés.
Effectivement, on peut parler de bulle là, parce que c'est assez phénoménal. Alors, on le voit, on les voit un petit peu à l'image. C'est le bonheur de ces œuvres-là, c'est finalement de mélanger le style européen de l'époque à l'esthétique locale. Et on voit des œuvres de quasi-impressionnisme, mais revues et corrigées à la sauce locale. Et c'est ça qui rend ces œuvres sans doute si particulières.
Oui, l'idée de Victor Tardieu était de permettre à ces jeunes élèves de découvrir exactement tout ce qui est enseigné dans les écoles classiques occidentales, mais également double diplôme, double formation, les arts traditionnels chinois, japonais, coréens, etc. Et il leur disait, en 5 ans, vous allez tout apprendre et vous allez pouvoir, une fois que vous serez riche de tout cet enseignement, vous allez pouvoir créer vous-même votre art, qui sera, et ce sera le renouveau de l'art moderne au Vietnam. Et donc, c'est exactement ce qui s'est passé. Et quand on regarde le... Il est intéressant de regarder aussi, je vais partir un peu dans des chiffres, mais par exemple, le top 20 des artistes vietnamiens aujourd'hui, en 2024, le total de 2024, dont je vous ai parlé tout à l'heure, 48,5 millions, le top 20 fait quand même 92%. Donc, il n'y a que 20 artistes qui font 92%.
Okay.
Et sur ces 20 artistes, il y en a... une quinzaine environ qui sont formés sous les deux premiers directeurs, donc avant 1945. Ça veut dire que cet enseignement vraiment d'exigence qui est autant occidental qu'oriental a vraiment porté ses fruits, et ceux qui ont été formés plus tard, pour d'autres raisons également, aujourd'hui ne performent pas de la même manière.
D'accord.
On a vraiment des beaux résultats sur ceux qui ont été formés avant 1945. En fait, c'est vraiment ceux-là qui performent.
Est-ce qu'on peut avoir justement quelques noms, parce qu'on ne les connaît forcément pas. Il y a quelques noms très célèbres là-bas et certains qu'on peut peut-être retenir pour quelqu'un qui cherche au moins une base de comparaison pour pouvoir investir justement dans ce secteur et dans cette branche artistique très spécifique.
Bien sûr. Alors, ceux qui aujourd'hui font les plus gros résultats sont principalement trois des artistes qui ont choisi de venir vivre en France.
Eux, ils sont carrément venus apprendre en France. D'accord.
Et pas apprendre, ils se sont installés en France. C'est-à-dire qu'ils ont été diplômés en 30 ou 31. Donc j'ai un très mauvais accent vietnamien. Les Pho, Mai Thu, Vu Cao Dam, Les Thilou, et également une jeune femme artiste qui est rentrée très jeune à l'École des Beaux-Arts de l'Indochine, qui avait 15 ou 16 ans, qui a été diplômée très jeune. Donc, à cette époque, c'était exceptionnel d'avoir une femme si jeune dans cette école. Ceux qui ont choisi de venir vivre en France, leur œuvre est conservée en France. Il y a beaucoup de tableaux chez nous. 70%, je crois, des tableaux qui se vendent dans le monde sont vendus en France.
Oui.
Ils font, à eux trois, 70% de ce total mondial de 48,5 millions en 2024. Donc, c'est énorme. Et ils sont arrivés en France dans les années entre 31 et 37, et ils sont morts en France.
D'accord.
Donc les Faux, Mai Thu, Vu Cao Dam, Cernucci leur a consacré une exposition il n'y a pas très longtemps à Paris, grâce à cette exposition et grâce aussi au fait qu'on organise chez Agut des ventes depuis 10 ans sur cette spécialité. Les œuvres sortent des réserves et des greniers, ou plutôt des salons des personnes qui ont ces tableaux au mur. C'est de la décoration, mais ils ne savent pas que ça vaut de l'argent, puisque depuis 70 ans, ça ne valait pas grand-chose. C'était de la décoration et aujourd'hui, ça vaut quelque chose. Donc les Faux, Mai Thu, Vu Cao Dam, c'est vraiment les artistes les plus connus parce qu'ils ont choisi de venir vivre en France. Ils ne sont pas retournés au Vietnam, ils sont décédés entre 1980 et 2000, en gros. Toute leur œuvre était conservée en France, et puis maintenant est en train de partir vers le Vietnam, qui est le pays qui achète. Ensuite, il y a d'autres artistes qui, eux, sont restés au Vietnam. L'idée de l'École des Beaux-Arts était « nous vous formons, et ensuite vous allez créer, transmettre, enseigner ». Exposés. Et donc, ceux qui ont choisi de venir vivre en France ont créé, ils ont dû faire vivre leur famille et nourrir leurs enfants. Donc, ils ont travaillé avec des galeries, ils ont beaucoup créé, et donc, c'est pour ça qu'on a beaucoup d'œuvres. Ceux qui sont restés au Vietnam, ils ont essayé de transmettre et d'enseigner. On a très peu d'œuvres. Et donc, dans ce top 20, on voit parfois la place 17 ou 18, un Tran Van Can, Leung Chan Ni, les Vendées, etc., qui sont un peu moins renommés. Ils ne sont pas venus en France, mais ils font quand même des gros résultats.
Ah, écoutez, réécoutez encore cette séquence sur le podcast. Vraiment, on a appris des tas de choses et puis on découvre vraiment un art très délicat, merveilleux, cette peinture vietnamienne. Merci infiniment d'avoir été avec nous, Charlotte Agut-Régnier de la Maison Agut. Tout de suite, on parle immobilier. Marie-Cœur de Roy, les experts immo, c'est tout de suite sur BFM Business.
Tout pour investir sur BFM Business.